Vous écoutez
RMC. RMC jusqu'à midi.
Et le troisième but pour l'Argentine. Martinez s'invite à la fête. L'Argentine va retrouver l'Angleterre en demi-finale de Coupe du Monde.
Les grandes gueules du sport.
Georges Quilineau.
C'est la bande-son de votre matinée en ce dimanche. L'Angleterre et l'Argentine rejoignent le dernier carré au terme d'une nuit éprouvante pour les deux formations. Les Three Alliance qui sont allés au bout des prolongations pour sortir la Norvège et l'Argentine immortelle a sorti la Suisse en prolongation. On connaît le dernier carré. Angleterre-Argentine, France-Espagne. Oh là, ça donne des frissons. Vraiment, ce tableau final pour ces demi-finales de la Coupe du Monde mardi et mercredi. Salut à toutes et tous, bienvenue dans les grandes gueules du sport. On est ravis de vous accompagner encore ce dimanche et on vous remercie d'ailleurs. Vous êtes près d'un million à chaque émission à nous suivre, de plus en plus nombreux à chaque fois. Vous faites partie de la bande des GG, évidemment. On vous attend au 32-16 pour participer à tous les débats et participer à l'enthousiasme ambiant avec cette Coupe du Monde et le Tour de France. Autour de la table aujourd'hui, Pascal Duprat est là. Salut Pascal.
Salut Georges, bonjour à toutes et à tous.
Il y a une finale à Wimbledon également, week-end de finale. Sarah Pitkowski est avec nous, salut Sarah.
Bonjour à tous.
Le rugby est de l'autre côté de la planète, mais lui est bien avec moi, en studio, Pierre Rabadan, salut Pierre.
Salut Georges, salut à tous.
Et il va y avoir une joute de l'autre côté des Pyrénées, en tout cas avec nos voisins, évidemment face à l'Espagne. Et lui a été la voix espagnole pendant des années, vous allez la reconnaître tout de suite. Fred Hermel est là, salut Fred.
Hola chicos.
Ah voilà tout de suite.
Bah ouais, je l'ai fait pendant 20 ans celle-là.
Combien d'années en Espagne
29 Fred. Ans et spécialiste du foot espagnol pour RMC pendant 20 ans.
Ah bah oui, voilà, donc on s'est dit que c'était pertinent de te garder pour
c'est
parler
gentil,
de France-Espagne
une petite place
quelques instants et
soleil.
Pour comprendre un peu la rivalité. Les grandes gueules du sport jusqu'à midi, on a un sacré programme. Donc à 10h sur le ring, on sera sur la route du tour. Est-ce que Paul Sexas vous bluffe après sa première semaine? Vous votez sur le compte XDGG à 10h30, Wimbledon. Est-ce qu'un nouveau Big Three peut vraiment émerger en cas de victoire de Zverev face à Sinner? Est-ce qu'on peut avoir un triangle là, Sinner, Zverev, Alcaraz pour dominer la planète tennis? Les GG remontent le temps à 10h30. On va revenir au 27 juin 2006 avec notre DeLorean. C'était France-Espagne en 8e de finale de la Coupe du Monde. Zidane avait envoyé les Espagnols à la retraite. Et pas l'inverse. C'est un bon souvenir de l'autre côté des Pyrénées, ça, Fred?
Ah non. D'ailleurs, c'est un de mes copains, qui est directeur de Marca, qui avait fait ce titre. On va. Bah, moi, je suis Rubila, la Fédane.
On
va envoyer la retraite. Ouais. Bon, il se l'est mangé derrière. Mais c'est un bon gars. En plus, il ne méritait pas ça. C'est un bon gars.
Ouais, bah, c'est le karma. Voilà. Est-ce que le karma existe?
Karma is a bitch,
là, il a existé. Sur le buzzer, est-ce que l'Argentine immortelle est à craindre? Ils se sont donc qualifiés en prolongation. Le zapping, le vestiaire. On va parler de la peur de tomber malade quand on est sportifs de haut niveau. Je sais que sur le Tour de France, c'est la grande peur. Ils sont tous avec le masque maintenant, n'est-ce pas Jérôme Pinault qui nous rejoint? Salut Jérôme.
Salut les copains, désolé. Problème technique depuis le centre de la France, mais tout va bien.
T'as peur d'être malade?
Ouais, c'est vrai, tout le monde a le masque et tout le monde a peur de tomber malade sur ce Tour de France.
Faire attention, il faut couper la clim et tout quand tu rentres dans
Sauf Christophe, c'est sûr. Hein, Christophe fait très très attention, il ne va pas tomber malade.
Christophe, c'est un
virus.
C'est un
rock. Quand les virus arrivent vers lui, ils font demi-tour. Hein.
Bah, j'ai passé deux jours à Barcelone avec vous la semaine dernière. Bam, malade toute la semaine.
Petit moteur, bien sûr.
Voilà, c'est pour ça que je ne fais plus tout le tour avec vous. Hein. Deux jours me suffisent.
Non, t'as plus la santé,
mais ça, j'ai plus la caisse. En fin d'émission, participez au jeu du sport avec vos GG. Remportez un bon cadeau de 50€ à valoir sur Alpha Photo Print pour imprimer vos meilleures photos de vacances sur un album photo, un poster ou un mug. Vous pouvez par exemple imprimer un mug avec la tête de Fred et l'inscription Hola Chicos. C'est possible. Vous pouvez le faire. Ce serait iconique. Ah, ça pourrait avoir du succès, je vous le dis, moi.
Ah ouais,
je pense. Il y a un truc à faire. Il y a peut-être 2-3€ à se faire pour remporter votre bon cadeau Agfa Photo Print. Appelez le 32-16 touche 4 ou envoyez Sport au 7-32-16. Sport au 7-32-16. Mais d'abord, vous l'avez compris, J-2 avant France-Espagne, demi-finale de la Coupe du Monde. Les dernières confrontations face à la Roja ont laissé des traces chez nos Bleus.
RMC. La une des grandes gueules du sport.
Pendant ces battus, tu avais l'œil du tigre, mec, tu en voulais.
C'est parti pour le coup d'envoi avec l'équipe de France, les bleus tout de blanc vêtus.
Il faut que tu retrouves ce regard. Et la seule façon d'y arriver, c'est de tout recommencer depuis le début.
Mbappé, contrôle de la poitrine, l'entrée de la sphère, attention, il n'y a pas de main. Mbappé face à Navas, Mbappé deuxième poteau. Oui, pour le coup.
Je vais torturer ce Balboa, je vais le crucifier ce mec, je vais le tuer.
Dani Olmo qui va récupérer le ballon dégagé par Saliba. Yamal à l'entrée de la surface de réparation, la frappe enroulée.
Oh les poules, quel but.
Oh quel but de Yamal. Il a tout simplement nettoyé la lucarne droite.
Quel but
de Mike Maignan, un partout.
Explique à tous ces gens pourquoi tu veux pas te battre.
On se réveille, au bout de quelques années, on se croit le meilleur, mais c'est faux, il sera trop tard.
Navas, le centre, devant le but, ballon dégagé, la tête Saliba, double contrôle, avec la frappe, et le but, contre son camp, de Koundé.
Pour la première fois de ma vie, j'ai peur. Alors quoi, merde, remue-toi.
C'est fini, la France sort de ce tournoi, la tête basse, impuissante, face à un adversaire supérieur.
Regarde leurs yeux, Rocky. Tu vois ce regard ? C'est l'œil du tigre. Je vais te péter la gueule. Viens, je t'attends.
Aïe, 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 ça fait mal de réécouter ça, mais c'est pour évacuer les mauvais souvenirs avant de retrouver l'Espagne mardi qui nous a boxé, vous l'avez entendu, lors de nos dernières confrontations. La dernière fois, 5-4 en demi-finale de la Ligue des Nations il y a un an, après avoir été mené 5-1 lors du dernier Euro, une défaite en demi-finale 2-1 où il nous avait fait danser avant le sacre continental des Espagnols. Si la France doit craindre une équipe, c'est nous, a dit Lamine Yamal hier après la rencontre. Les Bleus apprécieront. Les GG, je vous pose la question ce matin. Vous me répondez par oui ou par non. Même toi, Fred. Est-ce que France-Espagne est devenu notre classico ? Pascal ?
Oui.
Jérôme ?
Oui.
Pierre ?
J'ai envie de dire non, mais oui.
Non, mais oui. Sarah ?
Tous les ingrédients pour un oui.
Fred Hermel.
Mais si.
Si, c'est vrai. Oui. Le classico France-Espagne. Ici, on commence à l'appeler comme ça, celui-là aussi, pour les nations. Supporters des Bleus, vous débattez avec nous au 32-16 ou par message sur WhatsApp au 06-12-424-424. Florent Germain, avec nous depuis Boston, au plus près des Bleus pour RMC. Salut Flo.
Salut Georges, salut les GG, salut à tous.
Salut Flo.
Florent Germain, les Espagnols ont battu les Bleus sur les deux dernières confrontations à l'Euro et en Ligue des Nations. Ce sont des défaites que nos joueurs ont encore en travers de la gorge.
Oui, forcément, un goût de revanche, surtout par rapport à la demi-finale de l'Euro d'ailleurs. Côté français, j'ai regardé, il y a quand même 9 potentiels titulaires de mardi à Dallas qui ont joué ce match il y a 2 ans. Maignan, Koundé, Saliba, Upamecano, Tchouaméni, Rabiot, Dembélé, Mbappé bien sûr, et Barcola qui était entré en cours de jeu. Donc c'est une demi, on s'en souvient, que l'Espagne avait maîtrisé avec un Lamine Yamal qui n'avait pas apprécié les propos de Rabiot la veille. Rabiot disant que Yamal était encore un petit peu jeune. Bah, Yamal avait marqué, il avait été intenable, il y avait déjà de l'électricité dans l'air. Et puis c'est une compétition, on le sait, pendant laquelle les Bleus et surtout Didier Deschamps avaient été très critiqués pour le peu de spectacle, pour le niveau de jeu de l'équipe de France, et en plus avec le cas Kylian Mbappé, le nez cassé, le masque qu'il avait enlevé d'ailleurs avant France-Espagne, et globalement donc un capitaine des Bleus qui aura soif de revanche par rapport à cette compétition et à ce France-Espagne. Bon, les deux équipes s'étaient retrouvées en Ligue des Nations au terme d'un match fou. L'Espagne avait gagné 5-4. C'était en gros le rodage du quatuor offensif et des quatre attaquants de Didier Deschamps. C'est le moment de prouver, voilà, effectivement, que les Bleus sont bien mieux désormais et qu'ils sont tout simplement meilleurs que l'Espagne.
Ah, bah très bien, bah, ça c'est toi qui le dis. On verra tout à l'heure les dernières infos sur l'équipe de France. France-Espagne est-il devenu notre classico ? Tiens, Fred, on profite de ta présence. Tu as longtemps vécu de l'autre côté des Pyrénées. Est-ce que pour les Espagnols, c'est un classico ? C'est un grand match de jouer la France. Qu'est-ce que ça veut dire pour eux ?
Oui, alors déjà, d'un point de vue sportif, la France est un pays très respecté aujourd'hui au niveau football. Ça n'a pas toujours été le cas. Mais il y a quand même le meilleur joueur français, il joue à Madrid, faut pas l'oublier.
Ah, oui.
Il y a beaucoup de joueurs. Il y a Koundé, qui joue au Barça, il y a Tchouaméni. Enfin voilà, il y a une culture de joueurs français en Espagne importante. Mais moi, j'aimerais me placer sur le côté un peu culturel. C'est-à-dire que je pense que l'Espagne est un rival pour la France depuis moins longtemps que la France est un rival pour l'Espagne.
Ah oui ?
C'est-à-dire que nous, on est en train de découvrir une rivalité par rapport aux Espagnols, mais les Espagnols ont culturellement une rivalité historique par rapport à la France. Vous savez, l'Espagne, c'est un pays qui a été pauvre pendant de nombreuses années, où les Espagnols immigraient en France et dans d'autres pays pour aller chercher du travail. C'est un pays qui était une dictature. C'est un pays qui avait pas mal de problèmes. C'est un petit, et puis c'est un pays qui regardait toujours vers le grand frère du Nord, avec parfois un petit complexe d'infériorité. Donc c'est resté cela. Il y a aussi le souvenir des guerres napoléoniennes. Il faut pas oublier qu'il y a
Tu remontes loin.
Oui, mais sauf qu'on en parle encore toujours aujourd'hui. Napoléon entre 1808 et 1813 avait placé son frère José Bonaparte comme roi d'Espagne. Le roi d'Espagne avait été imposé par Napoléon. On l'appelait Pepe Botella, Pepe la bouteille, parce que il aimait bien picoler. Non, mais vraiment. Donc Pepe Botella aujourd'hui, Pepe Botella, on en parle encore dans la culture. Donc il y a
un truc historique.
Il y a un truc historique
de rivalité.
Sous le franquisme, il y avait une série télé qui était Curro Jiménez, qui était un héros espagnol. C'était un Thierry Lafronde anti-français.
Donc il y a vraiment quelque chose.
Il y a une vraie rivalité.
Et puis il y avait le fait aussi que la France battait l'Espagne. Et il y a eu la finale de l'Euro de Platini.
Arconada. Il y a eu le Canada en 84. Donc il y a tout ça. C'est-à-dire que l'Espagne a toujours eu un peu un certain complexe. Donc ça reste. Alors, les choses se sont bien équilibrées depuis notamment.
Ça a été surtout en basket, la rivalité.
Et voilà, j'allais y venir. Le basket est très très important. Moi, je me souviens le championnat du monde, le dernier championnat du monde en Espagne. Je suis allé à des matchs. France-Espagne,
c'était chaud.
Enfin voilà, on est dans une rivalité. Je vais dire qu'elle était liée avant à un certain complexe espagnol, historique et culturel. Aujourd'hui, on est beaucoup plus dans la rivalité purement sportive, parce que dans des sports majeurs comme le basket et le foot, on est à peu près au même niveau.
Et une rivalité qui s'équilibre effectivement, parce que la France a été battue par l'Espagne ces dernières années. Exactement. C'est ça aussi qui fait peut-être que ça en devient un classique, Pascal, pour toi?
Bah en fait, hier, en y réfléchissant, je me suis dit oui, l'Espagne, même si pour moi il y avait match avec l'Argentine, mais l'Espagne, comme l'a très bien dit Fred, c'est notre pays voisin. Pour nous, en tout cas pour moi, je trouve les Espagnols extrêmement présomptueux. Je parle du foot et des joueurs de foot. Ils sont sûrs d'eux, ils ont raison de l'être. On donne le change à ce niveau-là et nous devons le reconnaître. Il y a aussi les antécédents, vous en avez parlé, les derniers résultats qui sont favorables à l'Espagne. Il y a aussi culturellement ces joueurs et notamment des Français qui sont naturalisés espagnols. Laporte en est l'exemple. Et il y avait aussi Lejeune qui n'est pas parmi la sélection, mais qui a été un Français sélectionné. À un moment donné, la charnière centrale, dernier championnat d'Europe, c'était deux Français nationalisés qui jouaient derrière.
Le Normand et
Il y a une histoire liée jusqu'aux joueurs. Mais toi, Pascal, t'as grandi avec les France-Allemagne, notamment les grandes confrontations. Oui, aujourd'hui, le France-Allemagne, c'est le France-Espagne, en fait.
Ben oui, parce que ça fait plusieurs années que maintenant la France et l'Espagne sont dans le top 4. Avant c'était l'Allemagne, mais l'Allemagne a disparu et l'Allemagne ne concurrence plus la France. Donc bien naturellement, ce sont les Espagnols qui ont emboîté le pas, qui les ont supplantés. Et on a toujours maille à partie, donc tout le monde pense que ça va être difficile contre l'Espagne. On a tous raison de penser que ce match va être indécis. Et ça ajoute donc à cette rivalité. Griezmann, par exemple, qui fait toute sa carrière en Espagne, ou quasi toute sa carrière en Espagne alors qu'il est joueur français. Et puis Fred l'a aussi rappelé, ce nombre de joueurs français qui jouent dans les grands clubs espagnols, tout ceci fait que la rivalité va être exacerbée. Alors, et qu'on attend ce match avec impatience.
Pascal qui me dit au 06 12 424 424, je suis pas d'accord sur le principe du classico. Rivalité peut-être, et encore, parce qu'il n'y a pas eu peut-être encore assez de moments trop chauds entre les équipes. Pierre, toi tu dis que t'es pas encore d'accord sur le fait que c'est un classico.
Non, je dis pas que je suis pas d'accord, mais il manque encore un peu de grandes histoires, même s'il y a deux.
Il faut un Schumacher, c'est ça?
La sortie Schumacher en 82, le France-Allemagne. Non, mais c'est vrai,
sur
peut-être.
Baptiston.
Non, mais oui, mais là où c'est intéressant, c'est que ces deux nations qui, sportivement, on l'a dit dans le basket, c'est vrai dans le foot, ont depuis longtemps une rivalité parce qu'elles sont fortes dans les sports collectifs. Et donc, il y a cette culture des sports collectifs dans deux pays qui se ressemblent sur plein d'aspects et qui sont voisins, ça a été dit. Aujourd'hui, collectivement, ça me paraît une des équipes les plus les plus en capacité de tenir tête à la France, l'Argentine. Enfin, après les spécialistes débattront là-dessus.
Mais t'as plus envie de battre l'Argentine que l'Espagne.
Non. mais je trouve que c'est collectivement c'est plus intéressant l'Espagne. Et donc ça ressemble plus finalement à l'équipe de France. Il y a plus de talent, mais voilà. Donc
comment on construit une rivalité, Pierre? Parce que toi, quand tu joues au Stade Français, votre grand rival, c'était Toulouse.
Oui, c'est Toulouse.
C'est quoi? C'est petit à petit la rivalité se construit aussi sur les histoires entre vous.
Bah, c'est la répétition des matchs.
Ça se charrie, là, on voit, il y a Mal qui charrie un peu. Ça marche aussi avec
ça? Oui, ils se connaissent, bien sûr. Il faut que ce soit un peu explosif.
Toi, les Toulousains, tu les supportais pas quand ils étaient un peu arrogants?
C'est arrivé, mais ils étaient bons aussi. C'est ça le problème. Je crois que ça se construit avec l'histoire. Il y a déjà des antécédents, on l'a dit. Maintenant, peut-être que ça deviendra un classico après cette demi-finale.
Ouais, parce que là, c'est la deuxième fois seulement qu'ils s'affrontent en Coupe du Monde. On rappelle la dernière fois, c'était en 2006. Jérôme, est-ce que c'est suffisant pour qu'on puisse parler de classico? Est-ce que justement les déclats de Yamal, là, et même des Espagnols en général, même si Luis de la Fuente a été plus sympa, ça pique un peu justement la rivalité franco-espagnole qui n'existait pas vraiment peut-être en foot jusqu'à maintenant, Jérôme?
Non, mais elle est en train de se construire, tout simplement, aussi parce que l'histoire moderne fait que les deux équipes nationales se retrouvent sur le toit du monde ou le toit de l'Europe au moins, et que ces deux équipes-là, lors d'un championnat d'Europe ou d'une Coupe du Monde, on sait que c'est le très gros adversaire depuis le début de cette Coupe du Monde. On le dit, attendons avant de rencontrer l'Espagne. On attend tous finalement ce match. Un classico, c'est aussi ça. C'est vivement la rencontre. On le vit un Paris Saint-Germain-Marseille ou Marseille-Paris Saint-Germain en Ligue 1. Mais même si on sait maintenant qu'il n'y a plus match, on attend ce match-là. Et je pense que France-Espagne est devenu ça. Pourquoi? Parce que beaucoup de nos joueurs jouent là-bas, beaucoup de leurs joueurs sont nationalisés espagnols. On a cette proximité, et puis même dans le championnat et dans la Coupe d'Europe, la Champions League, nos clubs se rencontrent, et on sait qu'à chaque fois, que ce soit le Barça ou que ce soit le Real, il y a match et c'est un match important.
Tu penses qu'il y a un sentiment de revanche, Jérôme? Il y a pas de l'Euro et tout ça.
Ouais, il y a le sentiment de revanche, et puis il y a le sentiment de vous avez vu, nous, on gagne en club et en équipe nationale. Il y a cette envie de montrer à l'Espagne qu'on est les meilleurs. Parce que pendant quelques années, l'Espagne a été intouchable, a été plus forte que l'équipe de France. Ça s'est retourné. Et aujourd'hui, il y a les joueurs français et la France a à cœur de montrer qu'ils sont plus forts que les Espagnols. Et Lamine Yamal, il rentre dans ce jeu-là et il dit, on les a éliminés. C'est normal. Il vit de ça. Il se nourrit de ça. Et plutôt, c'est plutôt espagnol ce côté-là. Si un Français fait les mêmes déclarations, on dit que c'est un coq, on dit qu'il a les pieds dans la merde et la gueule ouverte. Mais l'espagnol, il a le droit. Donc on verra.
On en a parlé cette semaine dans El País. Il avait dit je sais que les gens me voient fort, mais moi, je me vois encore plus fort. Sarah, toi, ça te plaît les petites piques là, comme ça, sur l'histoire qui est en train de s'écrire avec les Espagnols?
Mais oui, parce qu'en fait, c'est les ingrédients. Pour qu'il y ait une rivalité, il faut qu'il y ait une forme de récurrence. Il faut que ces rencontres, elles soient récurrentes, et encore plus finalement quand c'est des matchs décisifs, c'est quand c'est des matchs à élimination directe. C'est là que se construit les grandes rivalités. En vous écoutant, il y a des comparaisons. Par exemple, en rugby, Pierre, on parle de crunch entre la France et l'Angleterre. Pourtant, on a quand même une rivalité avec la Nouvelle-Zélande. Mais comme le France-Angleterre, il est beaucoup plus récurrent, c'est là que les grandes histoires se sont écrites.
Les France-Argentine, ils ne seront pas aussi récurrents, par exemple.
Ils ne seront pas aussi fréquents. Ça ne pourra être qu'en Coupe du Monde, en fait. Alors qu'avec l'Espagne, effectivement, ce que vient de dire Jérôme, cette rivalité, elle existe. Elle se construit quand même en Ligue des Champions, même si on parle de club, on a le championnat d'Europe et puis cette Coupe du Monde. Et en plus de ça, c'est quand tu as des oppositions entre des personnalités. Et le Mbappé Yamal, oui, c'est une génération qui est en train de s'affronter.
Non, mais t'as raison. Et ce sont aussi les générations, enfin des histoires récentes qui peuvent construire des rivalités. Regarde, Pierre a la raison. Sarah,
bien sûr.
Le France Springboks, par exemple, avec l'Afrique du Sud, on n'avait pas une grande rivalité peut-être contre eux. Il y a des trucs qui commencent à se créer. Une rivalité, ça se crée aussi.
Mais il faut que ça se répète, en fait.
Voilà, exactement.
Il faut que ça se répète régulièrement.
Et puis les petits ingrédients, comme disait Sarah.
les injustices arbitrales
dont tu parles, voilà.
Ouais. Moi, je sais pas si on en a assez encore avec les Espagnols, peut-être. Fred, tu voulais rajouter quelque chose?
Non, pas encore. Mais il faut pas grand-chose, hein. Ouais. Et là, je pense que ce match-là,
on y est quand même.
Là, c'est la finale de Coupe du Monde. L'Espagne, la France vient d'une finale de Coupe du Monde. L'Espagne vient de gagner l'Euro.
Mbappé qui joue en Espagne, qui est la star du Real. Yamal qui est la star du Barça.
Mais certains Espagnols vont soutenir la France.
Quoi ?
Scoop.
Pourquoi ? Ah bon ?
Oui, mais
parce qu'il n'y a pas de joueurs du Real.
Et ceux qui sont à Madrid, Fred.
Certains très pro-Madrid vont soutenir la France pour Mbappé.
En fait, ils ne disent pas qu'ils vont soutenir la France, ils vont préférer que l'Espagne perde.
Voilà, puis surtout,
à ce point,
pourquoi elle était avec le Portugal pour Cristiano ? Parce qu'il y a une vraie bisbille entre le Real et la fédération.
Mais comme il y a beaucoup de Madridistes qui ne veulent pas que l'Argentine gagne pour Messi.
Aussi, par exemple. Voilà, oui, ça aussi. Non, mais là, le cas, c'est ton pays, tu ne soutiens pas. Alors, je dis pas que c'est une majorité. Je parle que c'est quelques cas.
Parce qu'on rappelle qu'on est quand même soutient les clubs avant la sélection. Il y a une culture club.
Les clubs sont toujours plus importants que la sélection.
C'est fou.
Et d'ailleurs, l'amour pour la sélection, c'est depuis 2008, depuis que l'Espagne gagne. Avant, on s'en foutait un petit peu en Espagne. La sélection. Ouais. Non, mais c'est vrai. Hein.
Oui, mais ça dit quelque chose aussi. Hein.
Moi, j'ai vécu avant. Et là, aujourd'hui, vous avez une partie pas importante, mais qui existe réellement, de supporters du Real qui vont tenir avec l'équipe de France parce qu'il n'y a pas de madridiste dans l'équipe, parce qu'on considère que Luis de la Fuente est anti-madridista, tout comme l'était Luis Enrique avant. Non, mais il faut.
J'adore les récits.
Mais
des balles dans le pied.
C'est ça l'Espagne, c'est un pays de foot et donc tout ce genre d'éléments compte. Donc, toute l'Espagne derrière la Roja. Non, une petite partie d'irréductibles espagnols seront pour les Français.
Oh là là là, je sens qu'on va avoir plein d'histoires à se raconter après ce match entre la France et l'Espagne, Pierre.
Après, c'est une demi-finale de Coupe du Monde. Faut aussi avoir dans le contexte que tous les mecs qui sont souvent être sur le terrain, qu'ils soient pour l'Espagne ou pour la France, ils veulent gagner cette Coupe du Monde pour des raisons différentes. Donc, classico ou pas classico, à ce niveau,
oui, voilà,
demi-finale de Coupe du Monde.
Peu importe ce qui entoure le match. Après, ce qui est bien, c'est qu'on rentre dans quelque chose de plus individualiste sur des histoires perso. Voilà. C'est aussi ça qui fait.
Avec Yamal, en plus, qui n'a pas assez marqué le mondial, selon lui, pour l'instant.
Mais c'est la seule grande déception par rapport aux grands joueurs. Messi est là, Mbappé est là, Haaland est là, Bellingham est là.
Pour l'instant.
Comment ?
Allons-y,
non, mais je veux dire, il a fait un super mondial.
Bien sûr.
Mais Lamine Yamal, pour l'instant, il n'a pas explosé. Hein. Bon, il revenait de blessure, etc.
C'est ça qui va créer aussi peut-être les grandes histoires, les grands moments d'électricité.
Et la dramaturgie du match. S'il y a, je sais pas, des contestations, des VAR utilisés, des pénaux qui sont pas validés, la dramaturgie d'un match va marquer les gens qui vont le regarder, et c'est ça qui te crée des souvenirs et qui font que ça cultive aussi une rivalité.
Ah, c'est ça, on n'a pas eu de prolongation.
Si l'équipe de France gagne 4-0, tant pis pour eux, mais je suis pas sûr qu'on soit marqué par ça, quoi.
De tir au but face à l'Espagne ou un truc comme ça, drama. On verra ça.
Qu'on a eu avec l'Argentine.
Ce qu'on a eu avec l'Argentine d'une manière complètement dramatique.
Et qu'on a eu avec l'Allemagne aussi. Hein, ouais. Donc,
exact. Aussi,
et qu'on a eu avec l'Italie également. Aussi. J'ai des messages là-dessus. Hein. Pour l'instant, nos rivaux, c'est encore l'Allemagne et même l'Italie. Parce que l'Italie nous a battu en finale de la Coupe du Monde. Avec ce qui s'est passé avec Zidane,
c'est une question d'âge aussi.
Mais oui.
C'est-à-dire que moi, au départ, mon grand rival, moi, je découvre le foot vraiment en 82, j'ai 12 ans, c'est le France-Allemagne à Séville. Donc, Battiston, Schumacher, etc. Donc, pendant longtemps, j'ai cru à c'était le rival à battre. Aujourd'hui, c'est un petit peu moins vrai parce que l'Allemagne est moins forte que nous. Donc.
Oui, mais peut-être que pour la jeune génération, ils vont voir Lamine Yamal comme le némésis des Français pour les années à venir. Fred, merci d'avoir été avec nous.
Avec plaisir, les amis.
Évidemment, ton cœur balance pour ce match.
Ça va pas, non.
Évidemment, allez, les bleus.
Après, on espère pas de dramaturgie ou quoi. Si on gagne 3-0,
ça nous ira quand même.
Pas de péno, rien.
Et Pierre, justement, dans un instant, on va se demander si la France est favorite pour cette rencontre. Allez, on se met dans l'ambiance, hein. C'est la Coupe du Monde, c'est la fête, les amis. France-Espagne, J-2, demi-finale de la Coupe du Monde à vivre sur RMC, évidemment. On est avec les GG et vous au 32-16. On vous donne la parole dans un instant. À tout de suite, merci Fred.
RMC jusqu'à midi.
Le crochet de Dembélé, la frappe de Dembélé. Et le but.
Les grandes gueules du sport.
La frappe de Mbappé. Oh, quel but. Par contre, là, la frappe. Et le but.
Vous n'êtes pas content ?
Triplé.
Ah bah Kylian, si tu fais ça, ça nous va très bien. Hein. Face à l'Espagne, la température monte, pas seulement parce que c'est la canicule, mais parce que ce match face à la Roja va être bouillant à Dallas, mardi à 21h. Les grandes gueules du sport avec Pierre Rabhadan, Pascal Duprat, Sarah Pitkowski, Jérôme Pinault et vous au 32-16 et sur WhatsApp. J'ai plein de messages hein, sur est-ce que la France-Espagne est un classico. El Loco me dit, il n'y a pas eu assez de contentieux encore comme au basket avec cette équipe espagnole, notre adversaire absolu. C'est encore clairement l'Argentine, hein, un peu comme tu le sous-entendais. À cause de ce qui s'est passé il y a 4 ans, même chose pour Pierre sur WhatsApp, un autre Pierre, hein, qui me dit c'est peut-être encore un peu trop. C'est vrai qu'on a l'Allemagne 82, l'Argentine ou même l'Argentine et l'Angleterre, ce qu'ils ont connu entre eux, c'est pas le niveau que l'on a encore entre la France et l'Espagne. Martial nous dit il nous faut une petite dramaturgie. C'était un peu dans le sens de ce qu'on disait il y a quelques instants.
Une revanche, tu vois, c'est ça le truc, c'est que tu es énervé, t'as envie de.
Il nous agace, mais il nous énerve pas encore, peut-être les Espagnols. Tiens, je voudrais qu'on écoute Luis de la Fuente, le sélectionneur espagnol, parler des Français il y a quelques jours. Écoutez.
Bien sûr, il est légitime et juste de penser que nous allons travailler pour essayer de battre la France. Je pense qu'ils seront tout aussi inquiets. Nous sommes la seule équipe du monde à avoir remporté 2 matchs consécutifs. Nous l'avons fait, mais ce troisième sera différent. J'insiste, on va affronter une très grande sélection.
Nous sommes la seule équipe à avoir gagné 2 matchs consécutifs contre la France, hein, veut dire Luis de la Fuente. La France est favorite, Pascal ?
Oui. Par rapport à tout ce qu'on a vu depuis le début de la Coupe du Monde, je pense que l'Espagne est en dessous de l'équipe de France. Elle, bien sûr, elle s'est qualifiée, et c'est en toute logique qu'elle est arrivée jusqu'aux demi-finales. Mais malgré tout, l'Espagne n'a pas montré ce qu'elle montrait en 2024 ou en 2025. Et à contrario, ben, la France marche sur l'eau. On disait que la défense française était, par exemple, le point noir. Je trouve que depuis la Coupe du Monde, la défense française assure et monte en puissance. Alors que j'en dirais pas tant des Espagnols. Pour autant, ces Espagnols qui n'ont pris qu'un but depuis le début de la compétition, mais je me languis de voir la défense espagnole affronter les extraterrestres offensifs français.
Attention, ils ont du monde en défense aussi avec Correa sur le côté, avec Pedro Porro aussi, et la défense avec Cubarsí et Laporte. Et on le prend ce statut de favori, Jérôme, ou il faut pas l'assumer justement pour pas énerver les Espagnols.
Mais il faut le prendre, évidemment qu'il faut le prendre. Il faut juste pas en débattre dans les médias pour les joueurs.
Ah ouais, il faut pas qu'on dise trop fort pour pas que les joueurs de la Roja l'entendent et qu'on les énerve.
Ce que fait Yamin Lamal, par exemple, ou les joueurs espagnols, ça sert à rien. Ils savent très bien qu'à ce niveau-là, ça va pas faire perdre pied à qui que ce soit. Ça va pas faire trembler le calcif d'Mbappé d'entendre Yamal qui dit « on va vous battre ».
De bomber le torse, comme le fait Yamal.
Mais non, c'est peut-être un peu de provoque et peut-être, mais les joueurs sont ultra professionnels. Ils ont pas pété les plombs contre le Paraguay, quasiment pas pété les plombs. Ils ont entendu beaucoup de déclarations dans les matchs précédents et pourtant ils ont gardé leur nerf, ils ont réglé leur compte sur le terrain. Donc je vois pas trop l'intérêt de faire ça. Peut-être que lui a besoin de se rassurer et besoin de se dire qu'on va gagner. Mais franchement, cette rivalité, elle est sur le terrain. Elle est parmi les joueurs qui vont se taper dans la main et qui vont se prendre dans les bras parce que c'est à peu près comme ça que ça va se passer à la fin du match. Mais il n'y a pas besoin d'en rajouter. Les joueurs sont ultra motivés. Pierre, tout à l'heure, le disait, c'est une demi-finale de Coupe du Monde. Il n'y a pas besoin d'être surmotivé pour gagner une demi-finale de
Pierre,
Coupe du Monde.
Pierre, t'as pas affiché des déclats de joueurs du Stade Toulousain en tant que capitaine du Stade Français avant un match pour énerver tous tes potes? Il est motivé. Non, mais ça existe ça, ou c'est entre journalistes?
Je pense qu'ils se sentent un peu plus faibles que la France, les Espagnols.
C'est une déclaration peut-être.
Je suis pas d'accord avec toi.
Quand tu vois le matos qu'on a, mais je veux dire, il y a mal, évidemment. On parle tous de Yamal, mais après en ressources offensives, je veux dire, nous, quand tu mets les deux équipes sur le papier, quand même, tu te dis que on est quand même mieux armé.
Tu prends pas forcément un Espagnol dans le 11 français, quoi.
En tout cas, pas devant.
Pas devant. T'es pas d'accord, Pascal ?
Non, je suis pas d'accord. Les Espagnols sont trop fiers pour considérer que la France est favorite. Non, Yamal, il est juste dans son rôle. Et là, encore une fois, je suis non plus pas. pas d'accord avec Jérôme, parce que j'imagine que les Français très professionnels et qui, dans leur communication pour l'instant, ne répondent pas aux quelques provocations espagnoles. Je suis certain que les Français, même si c'est une demi-finale de Coupe du Monde, même si la motivation sera naturelle, de jouer les Espagnols et de pouvoir faire en sorte que Yamal baisse d'un ton,
ils en ont envie. En fait, même s'ils ne vont pas le dire, moi je peux pas croire que les joueurs de l'équipe de France, ils ont pas vu ce qu'a dit Yamal.
Mais bien sûr qu'ils l'ont vu, ils l'ont noté, ils vont sûrement s'en parler toute la semaine et évidemment ça va agiter la préparation du match. Après moi je trouve que Yamal prendre cette position, ça montre une certaine fragilité et par rapport à un certain complexe par rapport à la France.
Parce que quand t'es capitaine d'une équipe comme ça, si tu vois un de tes joueurs dire ça, tu dis mais les gars, il faut pas donner des armes aux autres.
T'as pas besoin si t'es serein.
Ouais.
Et je pense qu'ils sont pas, ils sont, que Yamal n'est pas très serein. Ou il a envie de s'étalonner. Après, ça dépend des caractères.
On va voir si ça va compter.
Comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est le seul, on va dire, la seule star qui n'est pas au rendez-vous en termes de but. Donc ça compte aussi. Yamal, il sait très bien qu'il n'est pas à son meilleur niveau parce qu'il a été arrêté 2 mois avant la fin
du championnat. Il a besoin de faire du bruit
de la Liga. Ouais. Et il a tout approuvé et il piaffe d'impatience de montrer qu'il est là. Reste à savoir s'il en a le potentiel athlétique. Voilà, ça vient en douceur, c'est mieux ces derniers matchs que les premiers, mais à mon avis, il n'est pas encore à niveau.
Mbappé n'a jamais battu Lamine Yamal en match à élimination directe, hein, en 5 matchs avec la France ou avec le Real face au Barça. C'est une stat qu'on va voilà,
c'est une belle stat.
On l'oublie. Yamal a un but sur le début de cette Coupe du Monde, ça c'est une meilleure stat seulement. Tiens, on a Julien au 32-16 avec nous. Salut Julien, tu nous appelles d'Aix-en-Provence.
Tout à fait, bonjour. Je voulais saluer Pascal Dupraz, donc j'aime beaucoup les analystes, donc voilà, ça s'est fait.
Nous aussi, on l'aime bien, c'est pour ça qu'il est là encore.
C'est
un classico pour nous, Julien, là, mardi.
Alors pour moi, pas du tout. Pour plusieurs raisons. En fait, historiquement, on n'a jamais été tous les deux au top avec l'Espagne. Quand l'Espagne nous a battus, ils sont meilleurs que nous. Quand on les a battus, on est meilleurs qu'eux. Ouais. Il y a peut-être 2 matchs historiques, on va dire France-Espagne, dans des compétitions internationales, à savoir 84 avec Arconada et 2006 quand ils voulaient envoyer Zidane à la retraite. Mais c'est très très loin pour moi des rivalités qui sont beaucoup plus culturelles, donc à savoir les France-Allemagne, parce qu'il y a une rivalité à la fois footballistique et peut-être un peu plus culturelle que ça également. Des France-Italie, où la genèse de l'équipe 98 s'est faite en Serie A, qui était le plus grand championnat du monde à l'époque. Et éventuellement France-Angleterre, où paradoxalement, s'il n'y a pas eu de match très fondateur France-Angleterre dans une grande compétition.
On les a surtout battus en fait, Julien, les Anglais.
Voilà, ouais. C'est ça. Mais il y a quand même une rivalité culturelle. L'Espagne, on est quand même beaucoup plus proche d'eux. Et comme je disais, on n'a jamais été au top en même temps. Donc pour moi, il n'y a pas cette rivalité.
Mais on pressent un truc quand même. Voilà. Tu ne pressens pas un truc là, Julien? Quelque chose est en train de se créer?
Je pense tout à fait que ça peut faire un gros match avec la déclaration de Yamal, avec Deschamps qui meurt d'envie de faire une troisième finale de Coupe du Monde, ce qui serait absolument historique. Et ça peut être un match fondateur et qui donnerait le début d'une rivalité. Mais à l'heure actuelle, pour moi, elle n'existe pas encore.
Elle n'existe pas encore pour toi. Bon, c'est vrai que c'est un peu le sens de notre discussion qu'on a eu depuis tout à l'heure, hein, et que je vois beaucoup sur WhatsApp, où on parle plutôt de l'Argentine. On va en parler tout à l'heure. Tiens, c'est important de savoir les forces en présence, hein, aussi pour notre équipe de France. On est à 2 jours du match. Florent Germain qui est au plus près des Bleus à Boston. C'est quoi les dernières infos, Flo?
Alors les dernières infos, c'est que Kylian Mbappé et Aurélien Tchouaméni ont participé normalement à l'entraînement d'hier à la Bentley University, donc près de Boston. Ça c'est important, une séance légère certes, mais on a vu quand même un Kylian Mbappé avec le sourire, pas gêné du tout dans ses frappes de balle. Donc tout ça est très rassurant en vue de sa forme physique suite au coup reçu à la cheville contre le Maroc en quart de finale. À noter les absences de Dayot Upamecano et de William Saliba, mais aucune inquiétude, nous dit le staff de l'équipe de France. Voilà, juste une question de repos et de gestion. Et puis Tchouaméni, donc on l'a dit, qui était là, qui était avec les remplaçants certes, car il n'a pas joué les 2 derniers matchs, mais il était à l'aise dans ses prises d'appui, dans ses enchaînements avec le ballon. Donc il est remis de sa blessure à l'adducteur et il postule lui aussi pour une place de titulaire mardi. Les Bleus s'envolent en fin de journée pour Dallas.
Dallas, où tu seras, Flo, avec toute l'équipe RMC qui suit l'équipe de France. Bon vol jusqu'au Texas, franchement, mais même l'endroit, Dallas, France-Espagne, je trouve que ça claque quand même, hein, pour une demi-finale de Coupe du Monde. On a l'impression qu'on a tous les ingrédients pour que ça envoie grave dans deux jours sur RMC à 21h. Voilà les informations pour ce France-Espagne. On a beaucoup de messages sur WhatsApp, évidemment, hein, où on est avec les Bleus à fond. Il y a un enthousiasme quand même assez important. Hein.
Là, forcément.
Là
comme
quand même.
Dit, tous les ingrédients sont là, quoi. Ah, mais maintenant, il faut gagner, hein, les gars.
Non, mais c'est ça. Vous vous rendez compte, là, peut-être que dans une semaine. Bon, je vais pas le dire.
Ne dis pas.
Mais peut-être que dans une semaine. Ça peut être n'importe quoi. Peut-être dans une semaine, vous voyez votre frère, votre soeur.
Peut-être.
Tu vois. Peut-être que dans une semaine, Paul Sexa, c'est maillot jaune. Je sais pas, hein, Jérôme.
C'est ça. Il va falloir qu'il se passe beaucoup de choses, là.
Peut-être que dans une semaine, un Français gagne un grand chelem en tennis.
Ce sera plus probable que la France rencontre l'Argentine que Sexa, c'est maillot jaune.
D'ailleurs, on me fait remarquer sur WhatsApp, et je remercie d'ailleurs les nombreux messages que j'ai reçus, notamment de Zlatan. C'est peut-être le vrai, hein. Il a notre numéro, 06 12 424 424, il est aux États-Unis en ce moment. Il me dit: salut les GG, aujourd'hui c'est le 28e anniversaire de la victoire en Coupe du Monde contre le Brésil. Attendez, 28e anniversaire? 98, 26?
Ouais,
non mais attendez, mais c'est quoi? Mais en fait, le temps passe, une vitesse. On est tous vieux, en fait.
Ça nous met un petit coup de bambou.
Nous met un petit coup de bambou quand même. 28 ans de France 98. Et but, Manu Petit, le dernier 3-0 face au Brésil, n'est-ce pas, Jérôme? Allez, on se rappelle les bons souvenirs pour se donner de la force avant France-Espagne dans deux jours. Le zapping tout de suite avec les GG sur AMC.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Georges Quirinot.
C'était il y a 28 ans, la première étoile de l'équipe de France, jour pour jour, face au Brésil, 3-0. Tiens, petit mea culpa, j'ai un message de Malcolm sur WhatsApp. Il me dit: Georges, ta stat sur Mbappé qui n'a jamais battu Yamal en match élimination directe est fausse. Il y a eu le 4-1 face au Barça en quart de finale en 2024 du PSG. Totalement, Malcolm, tu as totalement raison. Mais voilà, on est là parfois pour reconnaître ses erreurs. On n'est pas parfait, surtout quand on n'a pas dormi de la nuit.
Trop de foot.
Ah ouais, là, deux prolongations, les amis, il va falloir se calmer. Un petit peu, hein. Avec Pierre Ramadan, avec Jérôme Pinault, avec Sarah Pitkowski, avec Pascal Dupras. Ce qui est bien, c'est que ça y est, c'est terminé les nuits blanches. Enfin, c'est bien, on a kiffé, hein. Mais maintenant, tous les matchs seront à des horaires, je dirais, convenables. Le zapping tout de suite.
Le zapping des grandes gueules du sport.
Dans un instant, on sera sur la route du tour avec toi, Jérôme, hein, où tu te trouves pour parler de la première semaine de Paul Sexas. Allez, on commence, les amis. Je m'en fous pas. Alors, ça, c'est très intéressant. Les mots forts de Jude Bellingham, qualif en demi-finale de la Coupe du Monde. Pascal.
Je m'en fous pas.
Jérôme.
Je m'en fous pas.
Pierre.
Je m'en fous.
Sarah.
Et je m'en fous aussi.
Eh ben alors, écoutez quand même. Mais vous n'avez pas le droit de parler, Pierre et Sarah. Le numéro 10 anglais a donc inscrit un doublé lors du succès en prolongation 2-1 face à la Norvège d'Erling Haaland. Thomas Tuchel a dit ceci: nous avons eu de la chance qu'Haaland soit en mode fantôme sur ce match-là. Il s'est chauffé quand même, le sélectionneur allemand de l'Angleterre. Réponse quelques secondes plus tard de Bellingham, à qui on demande de réagir à ces déclarations de Thomas Tuchel.
Peut-être qu'il ne sait pas ce que c'est de jouer dans ces conditions contre Haaland, Odegaard, Moussa, Sorloth. Ce n'est pas une équipe facile à jouer. On a essayé de créer un environnement positif et on devrait continuer. Vous n'allez pas gagner tous les matchs en vous faisant 1000 passes. Parfois, il faut savoir gagner moche. Et on a fait ça ce soir.
Peut-être qu'il ne sait pas ce que c'est d'affronter des stars. Il se met quand même des petites piques là, Pascal.
Ah ouais, c'est, tu dis ouais, c'est des piques. Mais en fait, en regardant hier le match, on voit Tourelle qui est très énervé sur le banc de touche, qui est pas content de ce qui se passe. Or, il a oublié deux choses pour moi fondamentales. C'est que la première, il y a un adversaire et les Norvégiens étaient une sélection de grande qualité. Et si Haaland n'a pas été bon, c'est parce que les défenseurs anglais lui ont muselé. Ça, c'est la première des choses. Et puis, je pense qu'il aurait mieux fait de souligner la performance de Bellingham, et notamment son premier but qui est génial.
C'est une faute de com' là, de Tuchel.
Je pense, ouais.
Non, mais Jérôme, c'est anecdotique ce genre de truc, ou quand même ça peut avoir de l'incidence? Parce que alors, Bellingham, il vient parler à la presse après 120 minutes de prolongation, il est à chaud. Est-ce que c'est anecdotique ou pas?
Bah, c'est pas anecdotique parce que ça reste l'entraîneur et son joueur et un des joueurs majeurs. Donc, quand tu as dit ça, tu as tout dit. Ça veut dire qu'il n'y a pas de, il n'y a pas plus d'affect que cela. Il n'y a pas plus de respect que cela. C'est juste deux mecs qui bossent ensemble. Il y en a un qui s'entraîne, qui entraîne et l'autre qui joue. Et ça peut avoir des incidences sur la suite parce que quand on te demande d'aller plus loin, on le sait toujours. Pour le sélectionneur de l'équipe de France, pour le sélectionneur de l'équipe d'Argentine, il y a un petit supplément d'âme pour certains joueurs. Bon, bah là, on est tranquille. Chez les Rosebifs, il n'y aura pas de supplément d'âme, en tout cas pas du côté de Bellingham, qui a priori partira pas en vacances avec Tourelle, quoi, ça c'est sûr.
Ouais, c'est vrai que c'était chaud un peu entre les deux avant. Tu t'en foutais, Pierre, mais c'est anecdotique ou pas?
Ouais, quand même. Fous,
franchement, tu mets une petite balle à ton entraîneur devant les micros, c'est jamais anodin.
Non, ouais, c'est une sur réaction. Je pense que Bellingham, il sort, il vient de marquer un doublé, de qualifier son équipe, il est dans l'euphorie de la chose. On lui dit, votre entraîneur a dit que vous n'avez pas été bon, hein, vous avez de la chance. Donc il dit,
t'as jamais mis une balle à ton entraîneur?
Si, ça a dû arriver. Mais voilà, je pense que c'est un peu une surréaction peut-être de Tourelle qui est, je sais pas quelle était la question qui a été posée vraiment à Tourelle quand il a dit on a eu de la chance, mais là on n'a pas été bon.
Tout le monde était un peu à chaud peut-être, ouais, à cran.
Moi je crois pas que ça traduit un manque de respect ou quoi que ce soit. Voilà, et chacun a répondu dans son truc et ça va pas poser plus de problèmes.
L'Angleterre qui retrouvera l'Argentine qui s'est qualifiée encore une fois miraculeusement presque aux prolongations. Il y avait un partout et victoire 3-1 finalement. Cette fois-ci ce n'est pas Messi qui a été le sauveur, on va en parler tout à l'heure. On zappe, je m'en fous pas. L'exploit, parce qu'il faut l'appeler comme ça, du 15 de France en Australie selon Fabien Galthié. Pierre.
Alors je m'en fous pas, même si je considère que c'est pas un exploit.
Ah bah tu vas nous dire pourquoi, Pascal?
Je m'en fous pas.
Jérôme.
Je m'en fous pas, mais je vais laisser parler les copains.
Sarah.
Ah, je m'en fous pas, non.
Les Français sont imposés, on l'a vécu ensemble en direct hier en fil rouge 46-26 à Brisbane lors de la deuxième journée du nouveau championnat des nations. C'est seulement la sixième victoire de l'histoire du 15 de France en Australie. Et le sélectionneur, Fabien Galthié, il a dit ceci au micro RMC.
Nous, on est dans une compétition et là, on fait pas de cadeaux. Hein. Les Blacks nous ont pas fait de cadeaux. Nous, on voulait pas faire de cadeaux aux Blacks. On leur a fait un petit peu des cadeaux parce que je pense qu'on était un peu impressionnés. Là, on voulait pas faire des cadeaux aux Australiens. Donc, dans cette compétition... Le rugby international, on fait pas de cadeaux aux adversaires, on n'est pas venu ici pour faire des cadeaux et pour rendre des hommages.
Pas de cadeaux,
on est venu ici pour prendre des points et gagner des matchs. On est surtout dans la compétition. Honnêtement, pour nous, c'est un point. Un bonus offensif, on a pris 2 points en Nouvelle-Zélande, on a pris 5 points aujourd'hui. On est surtout dans la compétition qui nous est proposée. Et donc, c'est important d'avoir pris 5 points aujourd'hui. Et on a obtenu l'objectif qu'on s'était fixé, c'est-à-dire gagner ici, faire cet exploit.
Exploit, le mot est utilisé. Il se déguise pas en Père Noël à Noël, j'ai l'impression. Hein. Tellement il aime pas distribuer des cadeaux, visiblement, Fabien Galthié. T'aimes pas le mot exploit, Pierre?
Non, c'est pas que je l'aime pas. C'est que c'est une très très bonne performance, notamment compte tenu de la composition de l'équipe de France. Voilà, on connaît un peu le contexte de ces tournées d'été où ça arrive en 2 vagues. Il y a les finalistes qui arrivent après. Donc c'était peut-être sur le papier, en tout cas, pas la meilleure équipe de France, en tout cas la plus compétitive sur le moment. Mais elle a été très forte. Après une première mi-temps où elle s'est un peu fait secouer en deuxième mi-temps et d'aller gagner en Australie avec cette différence de points, c'est une très très belle performance. Après, c'est plus l'équipe d'Australie qui joue les titres mondiaux, quoi. Elle est un peu moins forte, donc voilà.
Taper les Wallabies, c'est pas censé faire la une. Ça fait pas la une des grandes gueules du sport d'ailleurs.
Non, mais gagner là-bas, c'est pas facile.
Oui, voilà.
C'est pas facile. Surtout, c'est l'ampleur du score qui est impressionnante. Mm. Voilà, l'équipe de France a fait un très bon match avec pas mal de jeunes joueurs. Donc ça, en ça, je comprends ce qu'il veut dire. Après, est-ce que ça va rentrer dans les exploits du 15 de France?
Oui.
Je pense que le niveau de l'adversaire fait que c'est à relativiser.
Pascal.
Cela dit, Pierre l'a bien dit, l'Australie n'est pas l'Australie qu'on a connue. C'est un peu moins bien, même si c'est très difficile, j'imagine, de battre les Australiens sur leur terre. Cela dit, la déclaration de Galthié, pour ma part, elle est meilleure que celle de Tourelle. Il aura plus d'effet sur l'équipe, voilà.
Ah oui, non, mais bien sûr, il est dans une communication positive, dans un narratif qui veut imposer dimensionnons ce que nous avons fait.
Avec beaucoup de joueurs pour qui c'était les premières sélections, voilà. Avec il a fait des paris hein, sur cette tournée.
C'est en ça que, alors peut-être que le mot exploit c'est un peu fort, mais c'est en ça que c'est une superbe performance.
Bien sûr.
C'est que on a des joueurs qui effectivement faisaient leur première sélection, allaient jouer en Australie ou en tout cas dans l'hémisphère sud. On nous rabâche depuis toujours que c'est le rêve de tous d'aller taper, que ça soit les Australiens ou les Néo-Z dans l'hémisphère sud. Enfin, c'est en ça que la performance elle est top, parce qu'on sait que c'est pas l'équipe, alors c'est pas l'équipe premium qui devrait être en Coupe du Monde l'année prochaine.
Bien sûr.
Et je vais faire une comparaison qui peut peut-être être un peu légère, mais de savoir qu'on a quasiment deux équipes performantes, c'est un peu ce qu'on avec cette équipe de France de foot.
T'as raison.
Il y a quelque chose de rassurant quand même.
Là, avec Jalibert à l'arrière,
de très satisfaisant.
Une Tamac à l'ouverture.
Et Tamac qui reprend. Ouais.
Puis les deux ailiers, quoi. Grand Didier, qui a marqué un doublé pour sa première sélection. Enfin, voilà. Il y a eu plein de choses.
Il était fantastique dans son interview.
Ouais,
il avait une banane incroyable. Ouais,
ouais. Non, mais c'est vrai qu'elle elle nous fait kiffer, comme ces équipes.
Elle est plaisante.
Un Coupe du Monde là-bas.
Exactement, une belle 3. Et ça, je pense que là, je suis d'accord avec Pascal, la communication, même si elle est un peu excessive, cadeau, etc.
Bon, c'est Fabien Galtier,
le Père Noël, voilà, on connaît. Mais là-dessus, c'est intéressant parce qu'avec une équipe innovante, il va faire une grosse perf là où tu vas faire la Coupe du Monde l'année prochaine, avec beaucoup de joueurs qui intègrent l'équipe, et ça c'est
impactant aussi pour voir la montée à tout le monde.
Il a,
du jeu.
Il a utilisé l'exploit, même si lui il le pensait peut-être pas, mais en tout cas dans sa communication positive, c'était nécessaire pour
mon réalisateur Alban Azaïs m'a glissé à l'oreille. On a quand même connu des personnalités qui utilisaient le mot exploit avec un peu plus d'enthousiasme.
Oui, c'est un exploit.
Allez, on zappe, les amis. Je m'en fous pas. Le blues assumé de Léon Marchand, post-jeu de Paris. Pascal Duprat.
Je m'en fous pas.
Sarah.
Je m'en fous pas.
Jérôme.
Je m'en fous pas.
Et Pierre.
Je peux pas m'en foutre.
Ah bah alors, vous savez qu'il y a en ce moment un documentaire en 3 épisodes, 2 heures au total, sur au plus près de Léon Marchand, qui s'appelle Léon au-delà de l'or, qui est sorti vendredi sur l'application de France Télévisions, qui est très intéressant. Il partage donc son quotidien dans cette mini-série. Il dévoile certains de ses secrets d'entraînement. Il laisse la caméra entrer dans l'intimité de sa famille. On sait que la famille a fait partie de la construction de ce documentaire. Et il parle également de son état d'esprit après les Jeux de 2024. Il en avait déjà un petit peu parlé. Enfin, on le savait. On l'avait pas forcément entendu dans sa voix. Sur qu'est-ce qui lui passait par la tête après ces Jeux dorés, on l'écoute.
Vraiment les jours qui suivent, les mois qui suivent. Tu me réveilles le matin, je sais pas pourquoi je dois aller nager. J'ai l'impression que mon rêve, entre guillemets, mon objectif principal, il est terminé. Et le matin, il faut quand même une raison de pourquoi tu te lèves, quoi. Et il y a des moments où tu te demandes pourquoi. Avec les Jeux Olympiques à Paris, franchement, les 3 dernières années, je savais pourquoi je me levais. Je m'entraînais tous les jours pour ça et c'était facile, entre guillemets, de se lever le matin. J'ai vu la différence après les Jeux. Il y a eu des matins où je ne me suis pas levé, tout simplement. Là, je suis resté dans mon lit. J'ai éteint le réveil et je suis reparti à me coucher, quoi. Je me demande si cette flamme va revenir, si vraiment j'ai envie de continuer de nager, s'il y a d'autres objectifs à réaliser, etc.
Voilà, la flamme elle est revenue quand même, hein, parce qu'il s'est remotivé derrière. Hein. On attend toujours savoir s'il va participer au championnat d'Europe en France. Sarah, est-ce que c'est important d'entendre ça?
Oui, c'est très important parce que ça désacralise effectivement les monstres que sont les grands champions. On a l'impression qu'ils sont indestructibles, on sait que forcément ces énormes champions sont hors du commun. Ils ont un fonctionnement hors du commun. Ça c'est acté. En revanche, de savoir qu'effectivement quand ils touchent leurs rêves et leurs objectifs du doigt, de savoir que ils ont des fonctionnements humains, je pense que c'est important. C'est important de le dire, et ça s'est démocratisé ces 5-6 dernières années où on parle des burn-out, on parle des dépressions post-JO, post-grand titre. Et c'est important de le savoir, même pour la construction des jeunes sportifs. Une carrière, elle n'est pas linéaire. Et
les super-héros, ça n'existe pas aussi. Ouais.
Non, ça n'existe, ça peut pas exister.
Enfin,
le super-héros, il y a un moment, il est fatigué, quoi.
Juste c'est
normal.
Ça vous est tous arrivé, Pierre, ça t'est arrivé dans ta carrière de rugby, un jour, t'as pas envie de te lever? T'as pas envie de le faire?
Plus d'une fois.
Ouais. Jérôme?
Ah, évidemment.
Pascal?
Bien évidemment,
et Sarah,
envie de le cacher des fois.
Ah, oui. Bah oui, évidemment. Sauf qu'on le disait pas, c'était honteux à un moment de le dire. C'était une preuve de faiblesse.
Ouais.
Et donc on le disait pas, alors qu'aujourd'hui, aujourd'hui, c'est communément dit et on le soigne et on l'isole, en fait.
On en fera investir un jour hein, dans les grandes gueules du sport. Je pense que ça vaudra le coup aussi pour savoir un petit peu ce qui se passe dans l'intimité des champions, des sportifs de haut niveau. Parce que voilà, c'est ça aussi le quotidien. Tous Léon Marchand qu'on est, il y a des moments où on est un peu moins motivé. Ça a dû arriver, la même chose à LeBron James, à Cristiano Ronaldo, à Lionel Messi, à tout le monde. Hein, voilà, hein.
Après, là, ce qui est intéressant, c'est qu'il parle des jeux en France, dans son pays, où il va exploser au grand public, même si les spécialistes le connaissaient évidemment très bien. Évidemment, derrière ça, qu'est-ce que tu vas
qu'est-ce que tu peux avoir de mieux en étant si jeune,
en début de carrière. Donc c'est
t'as déjà tapé le plus haut possible tout début de ta carrière. Effectivement, on en reparlera. Effectivement, et on espère voir Léon Marchand championnat d'Europe à Saint-Denis cet été et qu'il soit sur pied pour participer. Évidemment, ce sera à vivre sur RMC. On revient dans un instant, les amis. On va aller sur la route du Tour où tu te trouves, Jérôme Pinault, pour parler de Paul Sexas. Est-ce que sa première semaine vous a bluffé? On en parle ensemble sur RMC. À tout de suite.
RMC jusqu'à midi. Les grandes gueules du...